Matthieu chapitre 28. On va lire les 10 premiers versets. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, c'est-à-dire qu'il est revenu de la mort à la vie. » Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Oh, avant de prier, un bel exemple à suivre des femmes ici. Après avoir... Elles courut porter la nouvelle aux disciples. Et on est appelé aujourd'hui, en 2016, à courir pour porter cette bonne nouvelle que Jésus ressuscité à ceux qui ne le connaissent pas, afin de donner un espoir aux gens de notre époque qui sont désespérés, qui sont déprimés, et de saisir par la foi que Jésus est ressuscité, quelle joie, quelle paix dans notre cœur et quelle espérance. Les gens vivent des expériences épouvantables à l'extérieur. Divorce par-dessus divorce. Des enfants qui sont abusés, des femmes qui sont abusées à cause des guerres, à cause de différentes choses. Et les gens sont désespérés. Et le pire, c'est qu'on remet la faute sur le dos de Dieu, alors qu'il est important ce matin pour ceux qui ne sont pas habitués à entendre parler de l'Évangile, de vous rappeler que le monde dans lequel on vit, c'est pas le monde que Dieu a voulu créer. C'est le monde que l'homme a voulu avoir sans Dieu, avec toutes ses conséquences. Dans le monde que Dieu a voulu créer, la maladie n'existait pas, la mort n'existait pas. L'homme était créé pour vivre éternellement. Mais l'homme a pris sa décision de vouloir vivre une vie sans Dieu, de devenir son propre Dieu, de faire ses propres choix. Et en 2016, on regarde à l'extérieur sur la terre et on voit ce que ça donne. Mais gloire à Dieu, grâce à la résurrection de Jésus, Dieu est en train de nous préparer un nouveau monde, une nouvelle terre, des nouveaux cieux, sur lesquels ceux qui ont mis leur foi, placé leur foi dans la personne de Jésus-Christ pour recevoir le pardon de leurs péchés, eh bien, habiteront un jour. Dieu va nous redonner un nouveau corps, et ça, c'est mon espérance, quoi. Amen? Oui. Il n'y aura même pas de miroir dans le royaume de Dieu. On n'aura pas besoin de perdre du temps à se regarder si on vieillit, si on ne vieillit pas, si on est beau, si on est belle. On va pouvoir regarder Jésus-Christ face à face. Et c'est en lui qu'on est beau, c'est en lui qu'on est belle. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce ce matin, Seigneur, pour cette parole qui nous a laissée. Cette parole qui remplit notre cœur d'espoir quand on se l'approprie par la foi, quand on croit qu'elle est la vérité, quand on croit qu'elle peut transformer des vies, nous faire passer de la mort à la vie. Merci, Seigneur, parce que ce passage nous rappelle ce matin, Seigneur, que tu as vaincu la mort, que tu as traversé, Seigneur, de l'autre côté et tu as remporté la victoire sur la mer et que tu détiens maintenant les clés, Seigneur, qui nous permettent de ne jamais demeurer captifs de la mort, mais d'être libérés à travers ce que tu as accompli sur la croix, mais surtout par la résurrection qui est confirmée ce matin par la résurrection. Seigneur, tu vois tous ces cœurs qui sont devant moi ce matin. Tu connais les besoins de chacun. Peut-être que certains sont venus avec un esprit d'incrédulité, peut-être que d'autres sont venus, Seigneur, par politesse, mais en tant que chrétien, Seigneur, j'ai la conviction que tous ceux qui sont ici, sans exception, ont reçu une invitation de toi depuis toute éternité, d'entendre ta parole. Peut-être une seule fois, peut-être reviendront-ils. Mais Seigneur, ma prière ce matin, c'est que ta parole puisse faire effet dans nos cœurs, sans exception, que nous puissions ouvrir nos cœurs pour recevoir ce que toi, là-haut, tu réserves à chacun de nous, afin que nous sortions d'ici avec la certitude de t'avoir rencontré, mais surtout grandi d'avoir rencontré la personne de Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Vladimir Lénine, et non pas Vladimir Poutine, mais Vladimir Lénine, une des têtes dirigeantes de la révolution communiste de 1917 en Russie, fut le premier dictateur de l'Union soviétique. Il est mort en 1924. Et son corps est exposé à Moscou. Il se trouve toujours dans une condition exceptionnelle. Et cela est dû à des embaumeurs qui travaillent tous les jours sur la dépouille de Lénine. Les scientifiques ont retiré le sang, ont retiré les fluides corporels ainsi que les organes internes de Lénine. Et pour conserver la forme, la couleur, la flexibilité, la ressemblance du corps de Lénine, les scientifiques russes doivent remplacer les bouts de peau et de chair abîmés par des plastiques ainsi que d'autres matériaux, comme de la paraffine et du maquillage. Je suis allé sur Google, et il est dans un mausolée, il est dans un cercueil avec un couvercle en verre, et vous le regardez, il est vraiment vivant, quoi. Hein? Vraiment vivant, mais il est mort. Il est mort, et on fait tout pour essayer de laisser croire aux gens qu'il est vivant, ou de... c'était l'idole d'un peuple. Hein? Il y a quelques années, le pasteur Alvin Rogers et son épouse étaient en Russie et ils en ont profité pour visiter le tombeau de Lénine. Et avant d'entrer dans le mausolée, les visiteurs reçoivent certaines consignes. Il est interdit d'utiliser un appareil photo ou un appareil vidéo et il est impératif de garder le silence en signe de respect pour le mort. Le pasteur Rogers rapporte qu'habituellement son épouse respecte toutes les règles. Mais à chaque fois qu'elle passait près d'un garde, elle disait « Mon Jésus est vivant ». Aucun garde ne l'a dénoncé ou fait une seule remarque. Elle savait que son sauveur n'était pas dans un tombeau et elle voulait partager cette bonne nouvelle. Et j'espère que c'est aussi votre attitude en tant que chrétien aujourd'hui. « Mon sauveur Jésus-Christ est vivant ». Et pour être capable de dire que « Mon sauveur Jésus-Christ est vivant », il faut qu'il soit d'abord votre sauveur. Et il faut aussi qu'il soit aussi votre Seigneur. C'est le Seigneur et le Sauveur de nos vies. Amen. Amen. Et s'il n'est pas le Sauveur de vos vies ce matin, à la fin, sans faire d'appel, je vous inviterai peut-être à faire une prière pour vraiment remettre vos vies entre les mains du Sauveur Jésus-Christ. Et aussi prendre cet engagement qu'il devienne votre Sauveur. C'est-à-dire que vous prendrez la décision de non plus fonctionner, faire de votre vie, de vivre de votre vie de la manière que vous voulez, mais que vous preniez la décision de vivre maintenant votre vie de la façon que Dieu veut que vous la viviez. Je peux vous dire une chose, après 33 ans de vie chrétienne, on va y aller à 30 ans. 30 ans de vie chrétienne, vous ne serez jamais, jamais déçus. Amen. Et les gens peuvent lever la main, peuvent rendre témoignage que Jésus ne nous décevra pas. Et il est vivant, il est présent au milieu de nous, nous dit la parole ce matin. Il nous entend, il nous écoute, il est capable de lire dans vos cœurs ce que je suis incapable de faire. Il connaît vos besoins. Et ce matin, il veut répondre aux besoins de chacun. Et j'espère que c'est une certitude que vous avez dans votre cœur ce matin. Vous avez vécu des problèmes, vous avez vécu des épreuves, vous avez été trompé, vous avez vécu des mauvaises expériences. Vous êtes peut-être déçu de la vie. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 70 ans ni 60 ans pour être déçu de la vie. Aujourd'hui, il y a une jeunesse qui se suicide à Tours rapidement. J'ai dit la semaine passée qu'il y avait à peu près une personne par jour qui se suicide sur les rails de la SNCB, un par jour presque. Alors c'est énorme, mais ce n'est pas des vieillards nécessairement qui mettent fin à leur jour. Et c'est vrai que quand on regarde à l'extérieur, il n'y a rien de bon. Mais quand on regarde pour maintenant et pour le futur et pour l'éternité ce qui nous attend, bien, je pense que ça vaut la peine de vivre cette vie-là et de placer notre confiance en Jésus-Christ. Et ce matin, le Seigneur Jésus va devenir votre Sauveur et votre Seigneur. Et j'espère que quand... à la fin du message, ce sera une conviction qu'il aura placée dans vos cœurs. Moi, je ne vous forcerai pas. Moi, je ne suis pas là pour obliger personne. Personne ne m'a forcé à faire ce changement dans ma vie. J'ai entendu le message, je l'ai compris dans ma tête, je l'ai laissé descendre dans mon cœur, et c'est dans mon cœur que ça a commencé à bouger. Et j'ai réalisé que sans Jésus, j'étais perdu dans mes péchés, et que c'était l'enfer qui m'attendait. Et aujourd'hui, je peux le louer devant tous et dire, Jésus est vivant. Il est vivant parce qu'il agit dans ma vie au quotidien. Il est vivant parce qu'à travers sa parole, il me parle, il me bouleverse et il change ma vie. Et j'espère que c'est votre prière à tous et chacun ici ce matin. La nouvelle excitante que Jésus est vivant est une nouvelle que nous avons besoin d'entendre et de partager encore aujourd'hui aux gens qui nous entourent. C'est une nouvelle qui devrait nous réjouir et nous donner de l'espoir. L'espérance de la résurrection devrait remplir nos cœurs de joie et Pâques souligne cet événement que Jésus est vivant. Amen. Si Jésus, l'importance de la résurrection, si Jésus était mort et qu'il n'était pas ressuscité, et qu'on me dise que Jésus est mort et que mes péchés sont pardonnés, j'en ai rien à cirer, ça ne me donne absolument rien. Ce qui me donne une espérance, d'abord que mes péchés sont pardonnés, c'est la résurrection. Ce qui me donne une espérance, qu'une vie après la mort, c'est la résurrection de Jésus. Il y a des gens qui meurent cliniquement, qui sont ramenés à la vie, mais ils finissent tous par mourir. Mais Jésus, lui, est mort, il est revenu de la mort à la vie. Et il garantit à tous et chacun qui mourront un jour et qui ont cru en lui pour recevoir le pardon de les péchés qu'il fera la même chose. Il va les faire passer de la mort à la vie. Et j'espère que c'est votre espoir ce matin. J'espère parce que ça nous stimule et ça nous permet de poursuivre dans cette vie en ayant les yeux fixés là-haut où il se trouve, à la droite de Dieu, en train d'intercéder pour chacun de nous. J'aimerais prendre quelques instants ce matin pour examiner les événements qui ont eu lieu tôt ce dimanche de Pâques. Je voudrais que nous entendions le message de la résurrection comme il a été partagé par l'ange qui est apparu au tombeau ce jour-là. Quand le jour du sabbat fut passé, c'est un peu ce que le texte nous dit, hein? Très tôt le dimanche matin, au lever du soleil, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé sont allées acheter des huiles parfumées pour aller les mettre sur le corps de Jésus. Elles vont se rendre au tombeau, se rappelant ces horribles événements dont elles avaient été témoins quelques jours auparavant. Et dimanche et vendredi, Michael l'a rappelé, j'ai parlé du film de Mel Gibson. Pour ceux qui l'ont vu, qui ont vu le film de Mel Gibson, eh bien, je dois vous dire que c'est de la petite imitation de ce que Jésus a pu souffrir. Les historiens, qui connaissaient très bien les traitements que les soldats romains infligeaient aux crucifiés, et particulièrement le traitement réservé à Jésus, disent que c'est rien, rien à côté de ce que Mel Gibson nous a montré, c'est rien à côté de ce que Jésus a subi. Il n'était pas obligé de le faire, il n'était sans péché. Et rappelez-vous qu'il l'a fait pour vous, personnellement, pour vous personnellement. Il est mort pour les péchés du monde, mais vous êtes dans le monde, vous faites partie du monde, et il est mort pour les péchés de chacun. Quel amour pour nous. Elles ont vu Jésus être attaché à un poteau et fouetté par un soldat romain. Elles ont vu son dos être lacéré, sa chair se déchirer, suite aux nombreux coups de fouet qu'il a reçus. Elles ont vu la couronne d'épines lui être enfoncée dans le crâne. Elles ont entendu les moqueries professées par tous ceux qui se trouvaient sur les lieux. Elles ont vu Jésus suspendu sur cette croix rugueuse. Elles ont vu son corps meurtri par les clous. Et elles ont entendu la douleur que cela lui causait à chaque fois qu'il respirait. Elles étaient là lorsque Jésus a crié « Eloi, Eloi, lama, sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et elles ont vu sa tête tomber vers l'avant lorsqu'il a dit « Tout est accompli. » Elles étaient là lorsque Jésus est mort. Et lorsqu'il est mort, elles aussi, en quelque sorte, elles sont mortes. Oh, bien sûr, elles étaient vivantes physiquement, mais tous leurs espoirs étaient morts sur cette croix avec Jésus. Le Seigneur était mort et tout espoir pour elles avait disparu. Que font-elles alors sur ce chemin de si bonheur ce dimanche matin? Pourquoi ne sont-elles pas demeurées dans leur lit à ruminer leur misère? Qu'est-ce qui a bien pu les faire sortir du lit si tôt un dimanche matin et les pousser à se rendre au tombeau? Ce qui les a poussés à se rendre au tombeau, c'est leur amour et leur dévouement pour Jésus. Quelqu'un devait embaumer le corps pour la sépulture et personne d'autre ne s'était présenté comme volontaire. Pierre ne l'avait pas fait, Jacques et Jean non plus. Ce sont donc ces femmes qui n'avaient jamais abandonné Jésus, qui l'avaient accompagné jusqu'à la fin, qui vont l'embaumer. Et la tâche qu'elles s'apprêtaient à accomplir était une tâche difficile et pénible. Elles allaient donc devoir essuyer le sang sur le visage de Jésus, sur ses jambes, sur son corps meurtri. Elles seraient les dernières à toucher son visage et à fermer ses yeux. Alors qu'elles s'approchaient du tombeau, elles se sont dites l'un à l'autre, Matthieu 28, versets 2 à 7, qu'on a lu tantôt, que je relis. « Qui va rouler pour nous la pierre qui se trouve devant l'entrée du tombeau? » Soudain, le texte biblique nous dit qu'il y a eu un fort tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect d'un éclair et ses vêtements étaient blancs comme la neige. Et alors, on nous dit que les gardes ont eu peur. Et il dit, il va s'adresser aux femmes en disant, « Je sais qui vous cherchez. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur la croix. Il n'est pas ici, il est revenu de la mort à la vie, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. Allez vite dire à ses disciples, il est revenu de la mort à la vie, et il va maintenant vous attendre en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Il y a deux questions qui me sont venues à l'esprit en lisant ce texte. Pourquoi la pierre a-t-elle été roulée? Et pour qui la pierre a-t-elle été roulée? A-t-elle été roulée pour Jésus? Non, puisqu'il était déjà parti. Depuis, de plus, le Fils de Dieu, le ressuscité, n'avait pas besoin de personne, que personne fasse quoi que ce soit pour lui. Alors, pour qui la pierre a-t-elle été roulée? Elle a été roulée, frères et sœurs, pour les femmes. Elle a été roulée afin qu'ils puissent voir que le tombeau était vide. Et c'est ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, du tombeau vide, ce qu'il signifiait pour ces femmes et pour les disciples, et ce qu'il doit signifier pour nous. Le tombeau vide signifie que Jésus est vivant. Des gens vont faire des grands pèlerinages à travers le monde pour célébrer, pour aller célébrer finalement ce qu'un grand leader religieux a pu construire à travers une religion. Et pourtant, quand ils vont voir son cercueil, quand ils vont voir son tombeau, il est toujours dans le tombeau. Que vous allez voir Bouddha, que vous allez voir Mahomet, ils sont toujours dans le tombeau. Vous allez à Jérusalem, Jésus n'est plus dans son tombeau. Le tombeau est vide, parce que le tombeau signifie que Jésus est vivant. Et la résurrection de Jésus est le fondement du christianisme. Amen. Amen. Paul écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 17, « Si le Christ n'est pas revenu à la vie, votre foi est une illusion et vous êtes encore perdus dans vos péchés. » Et parce que la résurrection est quelque chose de tellement vital, les ennemis de Christ l'ont attaqué dès le début. On peut lire, vous lirez à la maison Matthieu chapitre 28, versets 11 à 15. Certains ont suggéré que les femmes se sont trompées de tombe ce dimanche matin. D'autres prétendent que les disciples ont eu une sorte d'hallucination ou encore qu'ils ont juste inventé l'histoire de la résurrection de Jésus pour améliorer l'image que l'on pouvait avoir de lui. Mais alors, si l'une ou l'autre de ces théories est vraie, pourquoi ni les chefs religieux juifs, ni les Romains n'ont pu montrer le corps de Jésus qu'ils surveillaient dans la tombe? Pour réfuter la résurrection, il leur suffisait simplement de prendre le corps de Jésus et de le faire défiler dans un char à travers les rues de Jérusalem. Le christianisme n'aurait pas existé, car ils auraient été tués dans l'œuf, C'est précisément ce que les autorités militaires et religieuses auraient aimé faire, mettre un terme à cette controverse en allant dans le bon tombeau, prendre le corps de Jésus et ainsi démontrer que Christ n'était pas ressuscité. D'autres ont mis en avant la théorie du corps volé. Mais est-ce que les ennemis de Jésus auraient pu bouger le corps? Bien sûr que non. Ils n'avaient aucun motif pour faire cela. Derrière la plupart des crimes, il y a un mobile, sexe, revanche, jalousie, sectarisme, pour n'en nommer quelques-uns. Mais quel motif y aurait-il eu ici? En fin de compte, le corps de Jésus était là où il voulait qu'il soit. Pourquoi aurait-il fait ce qu'il voulait justement éviter? Est-ce que les amis de Jésus auraient pu faire cela? Non, ils étaient complètement abattus et ils se sont enfuis en ayant le sentiment qu'ils avaient suivi un chef discrédité qui avait ruiné leur espoir. Ils ne s'attendaient sûrement pas, c'était sûrement la dernière chose à laquelle ils s'attendaient, que Jésus revienne à la vie. D'ailleurs, à plusieurs reprises dans les évangiles, il leur a parlé de sa résurrection. Ils ne comprenaient pas. Personne n'était revenu de la mort à la vie. Ils ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire. Chaque témoignage dans les évangiles montre leur surprise complète et leur refus d'y croire dès le début, depuis le début. Tout proclame que le tombeau était vide le premier jour de la Pâque et plusieurs détails dans les évangiles le confirment. Les femmes sont entrées dans le tombeau et elles ont vu qu'il était vide. Que croyez-vous qu'elles pensaient à ce moment-là? Est-ce qu'elles se sont seulement contentées de regarder à l'intérieur? Est-ce qu'elles sont restées un certain temps à l'intérieur du tombeau? Est-ce qu'elles ont touché le linge qui se trouvait autour de Jésus? Est-ce qu'elles ont versé des larmes de joie? Non, rien de tout cela, nous dit le texte biblique. Matthieu écrit, verset 8, « Elles quittèrent rapidement le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Une fois qu'elles ont constaté que le tombeau était vide, une fois qu'elles ont eu la certitude que Jésus était ressuscité, ces femmes ont quitté les lieux en courant, nous dit le texte biblique. Et comme elles couraient, Jésus est venu à leur rencontre. Elles s'approchèrent de lui, elles saisirent ses pieds, peut-être pour s'assurer qu'il était bien vivant, que ce n'était pas un fantôme, et elles vont l'adorer. » Verset 9. Et ensuite, elles vont quitter les lieux pour aller avertir les disciples. Elles avaient commencé la journée, le cœur rempli de tristesse, et cette rencontre avec Jésus avait rempli leur cœur d'une joie inexplicable. Le contraste entre le moment où elles se rendaient au tombeau et le moment où elles quittent le tombeau est saisissant. Les pas qu'elles font maintenant sont remplis d'espoir. C'est quelque chose qu'elles n'avaient pas quand elles se sont levées le matin. Elles courent, elles partent, annoncer en courant aux disciples cette bonne nouvelle qui remplit le cœur d'espérance. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Ah, ça c'est bien, on vient de tomber dedans. Jésus est ressuscité. Amen. Deuxièmement, le tombeau. Le tombeau vide signifie qu'il y a un pardon. Et c'est important pour nous. Si quelqu'un avait besoin d'une bonne dose d'espoir, si quelqu'un avait besoin de savoir que ce que Jésus avait dit était la vérité, eh bien, c'était bien notre ami Pierre. Oh, combien Pierre devait être déprimé. Il se trouvait avec Jean lorsque les deux maris arrivèrent en courant dans la ville de Jérusalem. Lorsqu'ils virent les femmes dans cet état de frénésie, à l'instant même, lui et Jean vont partir à toute vitesse pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux, et Jean courait plus vite que Pierre. Et il va arriver le premier au tombeau. Mais le texte biblique nous dit qu'il n'est pas entré. Il va se baisser pour regarder, il va voir les bandes de lin posées à terre. Et Simon-Pierre va arriver après lui. Il va en rentrer dans le tombeau. Il va voir les bandes de lin posées par terre et aussi le linge qui avait été sur la terre de Jésus et qui était roulé à part à une autre place. Et là, le cœur de Pierre devait battre à toute vitesse. Et il devait pleurer de joie. Jésus, mon Jésus, est vivant. Paul rapporte lui-même dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 5. Il dit ceci, que Jésus est apparu à Pierre, puis ensuite aux 12 apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de 500 de ses disciples à la fois. Et il dit, en écrivant le texte biblique dans 1 Corinthiens 15, il dit, parmi ces 500 personnes à laquelle Christ est apparu, il y en a encore qui sont vivants. Alors, si Paul avait voulu raconter un mensonge, ceux qui étaient encore vivants auraient dit, Paul, t'es un menteur, arrête de dire qu'il est ressuscité, il n'est pas ressuscité. Mais ceux qui étaient vivants venaient soutenir le témoignage de Paul, que Jésus était vivant. Même si la Bible ne nous donne pas beaucoup de détails sur cette rencontre, je ne pense pas que Pierre ait dit beaucoup de choses. J'imagine Pierre seul, assis, la tête penchée, comme beaucoup d'entre nous, il s'était fixé des normes tellement élevées, Pierre. Rappelez-vous ce qu'il avait dit à Jésus. Même si tous les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais, Jésus. Tu peux toujours compter sur moi. Pierre s'était tellement fixé des normes élevées pour lui-même, des normes qu'il n'avait jamais pu vivre. Il n'était qu'un homme. Et parce qu'il ne pouvait se pardonner, il ne pouvait pas croire que Jésus lui pardonnait. Et c'est important pour nous aussi, frères et sœurs. On vit des expériences dans nos vies. Et il est difficile pour nous d'accepter le pardon de Jésus-Christ si à travers nos mauvaises expériences qu'on a vécues, si suite à des mauvaises décisions qu'on a prises, on n'est pas capable de se pardonner soi-même. Souvent, le plus facile, c'est de recevoir le pardon, mais le plus difficile, c'est de dire, écoute, je ne suis pas capable de me pardonner ce que j'ai fait avant. Et pourtant, il faut partir avec l'idée que ce qu'on a fait avant, on n'est pas capable de revenir en arrière. Ce qui est important, c'est de se dire, j'espère, en tout cas c'est mon but, de ne jamais recommettre la même bêtise que j'ai faite avant. Mais on ne peut rien changer. Et Dieu, en Jésus-Christ, pardonne ce qu'on a fait dans notre passé. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Une vie sans erreur, là, il n'y a personne sur la terre qui a jamais commis d'erreur, qui a jamais pris de mauvaises décisions, qui a jamais fait de mauvais choix. Et c'est important pour nous de se rappeler que ces mauvais choix, ces mauvaises expériences sont là pour nous faire grandir. Elles nous blessent, mais elles sont là aussi pour nous faire grandir. Et que si on garde nos yeux fixés sur Jésus, eh bien on sait que peu importe les erreurs, les mauvais choix, les mauvaises décisions, les péchés qu'on a commis, il n'y a aucun péché que Jésus ne peut pas nous pardonner. Et c'est ce qui devrait compter pour nous en tant que chrétiens. et simplement de confesser notre péché si on a commis une erreur qui nous titille encore aujourd'hui. Dis, Seigneur, je vais te demander pardon parce que là, j'ai vraiment agi par moi-même, en insensé, nous dit la parole. Je te demande pardon. Merci de m'avoir donné un nouvel amour. Merci de m'avoir donné un nouvel esprit qui va m'éviter dans l'avenir de commettre la même bêtise que j'ai commis avant. Amen. C'est important d'être capable de se pardonner. C'est vraiment important. C'est un handicap pour beaucoup de chrétiens de ne pas être capable de se pardonner les bêtises qu'ils ont fait avant. Je vous ai dit que je ne rendrai jamais mon témoignage au complet. Hein. Mais s'il fallait que je n'ai pas été capable de me pardonner une seule bêtise que j'ai commise dans le passé, ça ferait longtemps que je ne serais plus de ce monde. Moi. Mais moi, mes yeux sont fixés sur la croix. Et je réalise finalement qu'à travers tout ça, à travers tout le tout de bêtises que j'ai fait, d'erreurs que j'ai fait, ça m'a quand même permis d'arriver au pied de la croix de Jésus-Christ. Parce que j'ai réalisé que j'étais un simple mortel, que j'étais rien sans lui. Que mon salut, c'est en lui qui se trouvait. Et je loue le Seigneur pour le chrétien qui a osé ouvrir la bouche une fois pour me présenter l'Évangile, le pur Évangile de Jésus-Christ. Qui m'a placé vraiment face à face la première fois devant l'éternité. Qui m'a permis de réaliser que j'étais perdu, que je ne savais même pas ce qui se passait après la mort et où j'allais passer l'éternité. Et l'Évangile, c'est ça. On est tous destinés à aller à l'enfer parce qu'on est tous des pécheurs. Et Dieu, dans son amour, prouve son amour alors que nous étions encore tous des pécheurs. Christ est mort pour vous. Christ est mort pour moi. Et Christ nous ouvre les portes du paradis. Christ déchire notre cœur pour permettre à l'amour de Dieu d'envahir nos cœurs et inonder nos cœurs. Et la paix d'en haut, la joie d'en haut vient nous inonder. Et la seule chose qu'on peut faire, peu importe l'âge qu'on a, quand on fait cette rencontre intime et personnelle avec Jésus, c'est de regretter de ne pas l'avoir connu avant. Amen. C'est vrai. Hein? Imaginez Pierre. Hein? Il ne va pas croire que Jésus pouvait lui avoir pardonné. Pas après ce que j'ai fait, dit Pierre. J'ai eu trop loin, j'ai été trop loin, je ne mérite pas ton pardon, Jésus. Avant même que tu sois conduit devant Pilate, je t'avais régné trois fois, Jésus. J'ai dit que je ne t'avais jamais connu. Je pensais seulement à moi et pas à toi. Et il avait entendu, vous imaginez le poids de Pierre, qui avait entendu Jésus dire aux gens, « Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. » Il avait entendu cette parole. Vous imaginez comment il devait être déprimé, ce gars-là. Et pourquoi Jésus va pardonner à Pierre qu'il l'avait renié trois fois devant les hommes? Parce qu'il y a toujours ce Dieu de la seconde chance. Pierre s'était repenti. Et ça empêche la parole de Jésus de donner son effet. Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant Dieu. Pierre s'est repenti, a confessé son péché. Et je vais vous montrer dans Marc chapitre 16, verset 7, qu'on sait exactement que Pierre a pardonné son péché. On va juste continuer ce que je suis en train de dire. Et puis, je m'imagine Pierre a senti une main posée sur son épaule. Il va jeter un coup d'œil sur cette main et il va voir celui qui avait été percé. Et il avait l'impression que son cœur allait s'arrêter de battre. Alors, il s'est jeté aux pieds de celui qui l'avait renié et il entend la voix de celui qui l'avait aimé au point de donner sa vie pour lui. Il lui dit, Pierre, Pierre. Si vous avez déjà été dominé par vos émotions au point de ne pouvoir parler, vous savez ce que je suis en train de parler. Les larmes ont dû couler sur les joues de Pierre. Vous avez déjà vécu ces choses. On pleure, on ne sait pas pourquoi on est pris par les émotions. On essaie d'arrêter de pleurer. Et plus on essaie d'arrêter de pleurer, plus on continue à pleurer. Et là, on est presque sur le point de suffoquer. On est pris par les émotions. J'imagine Pierre dans cet état-là. Les sanglots qui étouffaient toute parole qu'il aurait voulu dire à son sauveur. Voilà comment j'imagine la rencontre de Jésus avec Pierre. Ce pécheur de métier, un homme costaud, agenouillé devant Jésus, pleurant chaud de larmes pour ce qu'il avait fait. Et je vois la main de Jésus posée sur Pierre, disant, « Pierre, Pierre, tout va bien, Pierre. Tout va bien. Tout est arrangé, Pierre. Je t'ai déjà pardonné, Pierre. » Oh, quelle parole apaisante, frères et sœurs. Pierre, tu as de la difficulté à te pardonner. Tu me demandais pardon, Pierre, t'es déjà pardonné. Garde pas tes yeux sur ce que tu as fait, Pierre. Tu ne seras jamais capable de te pardonner. Garde tes yeux sur ce que moi j'ai fait pour toi. Garde tes yeux sur ce que j'ai fait pour moi. pour toi et ça va te permettre d'oublier ce que tu as fait, que tu es incapable de te pardonner. Rappelez-vous que l'ange avait dit aux femmes, « Allez maintenant. » Marc chapitre 16, verset 7. Ceux qui ont leur Bible, s'il vous plaît, rapidement. Alors, c'est l'ange qui apparaît, hein, qui apparaît aux disciples. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Jésus leur a donné rendez-vous à Galilée. On l'a vu dans Matthieu. Maintenant, regardez dans Marc. Il va dire aux femmes ceci. Allez maintenant dire aux disciples. Allez maintenant dire aux disciples. Ils sont autour du tombeau. Allez les femmes, allez maintenant dire aux disciples, y compris Pierre. Jésus ira vous attendre en Galilée. Il n'y a pas besoin de dire le nom de Pierre, hein? Pierre, il faisait partie des disciples, hein? Allez dire aux disciples, surtout à Pierre, que Jésus les attend sur le bord du lac de Galilée. Ah, Pierre, il devait être content, heureux, hein? Ah, ça confirmait que Jésus lui avait pardonné. Il avait la certitude. Et tant et si longtemps, je pense qu'il n'a pas eu cette parole de l'ange. Il devait se remettre en question, il devait dire, est-ce qu'il m'a vraiment pardonné? Il devait se torturer, la pauvre Pierre. Quelle parole de joie! Dites aux disciples que le Seigneur, le Sauveur, les attend à Galilée. Mais n'oubliez pas Pierre. Dites-le surtout à Pierre. Pas à Jean, l'apôtre bien-aimé de Jésus. Pierre, je sais dans quel état il est, Pierre. Je suis capable de venir dans son cœur à Pierre. Je sais ce qu'il vit. Rassurez-le. Quand je dis que je pardonne les péchés, je pardonne les péchés. Avoir l'assurance que je ne reprends pas ce que j'ai donné. Dites-lui qu'il vienne. Il est le bienvenu. Peu importe les péchés que vous avez faits dans vos vies, vous êtes tous bienvenus devant la croix de Jésus-Christ pour recevoir le pardon de vos péchés. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas vous pardonner en Jésus-Christ. Le tombeau vide signifie qu'il y a eu pardon. Le tombeau vide signifie que nos péchés ont été non seulement pardonnés, mais effacés. Le tombeau vide signifie que Jésus-Christ a remporté la victoire sur le péché, sur la mort. Voilà en quoi l'Évangile est une bonne nouvelle, parce qu'elle annonce à l'homme le pardon de ses péchés. Celui qui est l'agneau de Dieu est venu. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris ou libérés. Pour utiliser un autre mot. Guéris, libérés de quoi? Du châtiment éternel que nous méritions pour nos péchés. Les gens, on leur dit, Dieu vous aime, il vous a sauvés. Mais si on ne dit pas aux gens de quoi il les a sauvés, bien les gens, écoutez, ils nagent dans le brouillard et ça ne les intéresse pas d'accepter le Seigneur. Mais dans ce message de l'Évangile, on doit se rendre jusqu'au bout. Jésus est mort sur la croix, il a pris sur lui nos péchés afin de nous sauver du juste jugement qui attendait les pécheurs. Il y a un prix à payer pour nos péchés. Ce n'est pas parce que Dieu... Il existe depuis toute éternité que maintenant s'est rendu un vieillard, il ne voit plus clair et qui n'entend rien. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu est capable d'aller dans nos cœurs. Dieu connaît vos mauvaises pensées, Dieu connaît vos mauvaises actions, vos mauvaises paroles. Et il y a un prix à payer pour ça, parce qu'on désobéit à sa loi. Dans les pays aujourd'hui, quand vous désobéissez à la loi, vous devez vous attendre à être puni. Pourquoi Dieu serait autrement qu'il serait plus malléable que nos gouvernements qui établissent les lois? Non. Dieu est un Dieu trois fois saint. Et Dieu dit que le péché doit être puni. Et celui qui meurt dans ses péchés reçoit le juste châtiment qu'il mérite pour ses péchés. Mais Jésus a pris sur lui le juste châtiment qu'on méritait, lui le juste, pour des injustes. Et en retour, nous recevons la justice de Dieu. En retour, nous sommes justifiés, nous sommes reconnus justes devant Dieu. Mais il faut d'abord accepter ce que Jésus a fait à la croix. Si nous voulons recevoir le pardon que Christ a obtenu pour nous à la croix et dont le tombeau est vide, nous avons besoin de reconnaître avec un cœur repentant que nous avons péché pour recevoir son pardon. L'avez-vous déjà fait? Avez-vous déjà accepté que Jésus meure à votre place, qu'il subisse le châtiment que vous méritiez pour vos péchés? C'est des questions que vous pouvez vous poser. Je m'adresse surtout aux jeunes ici. Souvent, les jeunes, on attend avant d'accepter, on veut faire la vie qu'on voudrait faire. On se dit, j'ai toute la vie devant moi. Je me rappelle, il y a quelques années, ça doit remonter à tout près de 10 ans, il y a quelqu'un qui avait amené un jeune de 18 ans ici. Ce gars-là, il a sûrement entendu le message une seule fois dans sa vie, le message de l'Évangile. J'ai fait un appel, il n'a pas levé la main. Il est parti. La semaine d'après, il était dans la Meuse, il avait été poignardé à mort dans le carré. Il était mort, 18 ans. Peut-être qu'il est rentré ici, il a entendu l'Évangile, il s'est dit, « Ah, moi, j'ai toute la vie devant moi. J'ai entendu, écoute, je vais prendre un petit peu de recul, je vais réfléchir. » Il n'a pas réfléchi longtemps, la même semaine, il est assassiné dans le carré. 18 ans. Et c'est une grâce que Dieu vous fait d'entendre l'Évangile. Parce qu'il y a des gens dans le monde qui n'ont jamais entendu parler encore de Jésus-Christ. Et vous, vous en êtes gavés semaine après semaine. Alors on est encore moins excusable aux yeux de Dieu de ce qu'on fait avec ce message qu'on entend jour, semaine après semaine. Est-ce qu'on a pris cette décision? Le tombeau vide signifie que Jésus est vivant et que ce qu'il dit est la vérité. Le tombeau vide signifie que Dieu accorde son pardon à quiconque se repent. Le tombeau vide signifie que la grâce de Dieu est plus grande que notre péché. Cela signifie que peu importe ce que nous avons fait, il est toujours prêt à nous pardonner. Finalement, le tombeau vide signifie aussi que nous pouvons recevoir une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Jésus est mort pour que nous recevions une nouvelle vie. Lorsque les apôtres se trouvaient emprisonnés à Jérusalem, un ange du Seigneur va ouvrir les portes de la prison et va leur dire, « Allez dans le temple et annoncez au peuple tout ce qui concerne la vie nouvelle. » Et en quoi consiste cette vie nouvelle? Et j'aimerais parler, en terminant ce message, brièvement sur les avantages de cette vie nouvelle. Et je suis persuadé que la raison pour laquelle il y a tant de chrétiens qui vivent sans avoir la joie dans leur cœur, c'est que trop souvent, ils n'ont pas encore saisi les avantages incroyables de cette nouvelle vie. Encore une fois, écoutons Pierre nous enseigner quelque chose. En 1 Pierre chapitre 1, si vous voulez tourner, on va terminer le message avec ce passage. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a accordé une vie nouvelle en ramenant Jésus-Christ de la mort à la vie. Il nous a accordé une vie nouvelle en ramenant Jésus-Christ de la mort à la vie. Nous avons ainsi une espérance vivante, sous-entendu qu'il nous ramènera aussi un jour de la mort à la vie. Et nous pouvons nous réjouir des biens qu'il réserve aux siens, dit Pierre. Ce sont des biens qui ne peuvent ni se gâter, ni se salir, ni perdre leur éclat, que Dieu réserve dans les cieux pour vous, que sa puissance, vous qui croyez, que sa puissance garde par la foi jusqu'à ce que vienne le salut, c'est-à-dire jusqu'à ce que vienne Jésus, prêt à être révélé à la fin des temps. Versets 8 et 9. Vous vous réjouissez d'une joie glorieuse. Il dit glorieuse, pourquoi? Parce que cette joie vient d'en haut. Glorieuse, si grande qu'elle ne peut pas s'exprimer par des paroles, car vous obtenez ce qui est le but de votre foi, le salut de vos œuvres, de vos âmes. Le salut de vos âmes. Quel est le but de ma foi? C'est le salut de mon âme. Voilà pourquoi le juste doit vivre par la foi. Regardez les versets 1 à 5. On va regarder les avantages. Premièrement, Dieu nous accorde une vie nouvelle en ramenant Jésus-Christ de la mort à la vie, c'est ce que Pierre dit. Parce que nous sommes nés de nouveau, parce que nous sommes libérés de ce que Pierre décrit comme étant une vaine manière de vivre, dans laquelle nous vivions autrefois, une vie où nous avions le cœur vide, où nous n'étions jamais vraiment satisfaits. Premier avantage, Dieu nous accorde une vie nouvelle en ramenant Jésus-Christ de la mort à la vie. Deuxièmement, verset 3, nous avons une espérance vivante. Nous avons reçu l'espérance d'une vie nouvelle qui vaut la peine d'être vécue, et non pas toutes sortes de fausses espérances qui nous laissent miroiter cette vie, qui ne mène nulle part et qui meurt avec les gens. Car il est impossible de vivre dans ce monde sans avoir des ambitions ou des buts à atteindre. Et frères et sœurs, ce sont ces buts, ces ambitions qui permettent aux gens d'avancer dans la vie. Et pour chaque ambition malheureusement réalisée, il y a toujours une déception qui est réservée. Celle de ne jamais être satisfait, qui vous laisse sans espoir et le cœur désespérément vide. Et vous savez, ceux qui ont réussi dans la vie, ceux qui ont réussi à se rendre au top dans les milliardaires qu'on connaît, plus ils grimpent dans la vie, et puis, il voit le précipice, combien le précipice est haut, et combien ils réalisent que leur cœur est désespérément vide. Vous imaginez le bonhomme ou la bonne femme qui a sué toute sa vie pour arriver à s'implanter au sommet de la société et qui arrive au bout pour s'apercevoir qu'elle n'est pas plus satisfaite que quand elle était là. Il n'y a rien dans ce monde qui peut combler le cœur des gens. Ah, je suis en amour, et j'ai rencontré l'homme de ma vie, laisse passer une couple d'années. Tu pensais sur le coup que ça remplirait ton cœur toute ta vie? Ça fait partie de ta vie, mais ça ne remplira jamais le vide qui est dans ton cœur. Parce qu'il n'y a aucun homme, aucune femme, il n'y a aucune œuvre que tu peux accomplir qui va remplir ton cœur vide. Il n'y a qu'une personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Et il est capable de la remplir parce que son cœur déborde d'amour. C'est un fleuve d'amour. Jésus continue aujourd'hui encore à déverser son amour dans le cœur des gens. Pour que cet amour puisse arriver dans le cœur, il faut lui ouvrir notre porte. Et c'est notre responsabilité. C'est votre responsabilité. Il y a une belle peinture qui a été faite par un peintre renommé, où il avait dessiné cette histoire de porte. Jésus qui frappe à la porte du cœur des gens dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Et quelqu'un s'est promené devant cette peinture, a dit, il a fait une erreur, le peintre, la peinture n'est pas achevée. On a dit, ah, pourquoi? Il n'y a pas de poignée après la porte. Et il n'y avait pas de poignée à l'extérieur de la porte. Non, Jésus, il frappe. Il ne force pas pour ouvrir la porte de notre cœur. La poignée, elle est de l'autre côté. C'est à vous à ouvrir la porte. Il ne fait que frapper. Voici, je frappe et je me tiens à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez toi. Je dînerai avec toi et on passera l'éternité ensemble. La responsabilité revient à l'homme. C'est notre grande responsabilité d'avoir reçu le libre arbitre de Dieu, d'être capable de faire librement des choix auxquels on répondra, peut-être pour l'éternité devant Dieu. Deuxième avantage, nous avons une espérance vivante. Le tombeau vide signifie qu'il y a de l'espoir. Au milieu des épreuves de toutes sortes, nous savons que tôt ou tard, le soleil finira par briller à nouveau. En tant que chrétiens, nous savons qu'un monde meilleur nous attend. Dans ce monde, nous recevrons de nouvelles demeures et nous vivrons dans un environnement parfaitement pur où il n'y aura plus ni douleur, ni souffrance, ni larmes, ni maladie, ni mort. Hey, n'est-ce pas ce qu'on aspire aujourd'hui? On a tout remis entre les mains scientifiques. Un œil bionique, un bras bionique, une jambe bionique, un cœur bionique. Ben, ce n'est pas ce que le Seigneur nous réserve, hein? Un nouveau corps. Glorifié. Incorruptible, immortel, plus de rides, plus rien qui tombe. Pas beau ça, hein? Hey! C'est extraordinaire quand on y pense. Peut-être même plus de cheveux gris. Quand on pense à tout ça, le Seigneur ne nous décevra pas dans ce qu'il est en train de nous préparer. Et ça s'en vient assez rapidement. Un autre avantage, verset 4, un héritage nous attend. Avez-vous déjà rêvé qu'un parent éloigné, sur le point de mourir, vous laisse un héritage de grande valeur? Pierre dit que nous avons déjà un héritage qui nous attend dans les cieux. Un héritage qui ne peut ni se gâter, qui ne peut ni se salir et qui ne perdra jamais son éclat. Pas besoin d'anti-rouille, pas besoin de pâte particulière pour frotter pour que ça reste brillant. On est dans un autre domaine, on est dans un autre royaume. Il n'y a pas de corruption dans ce royaume-là. Verset 4, Dieu fait de nous des héritiers. Je l'ai dit vendredi, je l'ai dit dimanche passé. Verset 5, un autre avantage, nous sommes plus protégés et gardés par la puissante main de Dieu. Il est avec nous tous les jours de la vie. Quelqu'un l'a dit dans sa prière tantôt, sachez-le, je serai avec vous tous les jours, et ce jusqu'à la fin du monde. Versets 6 et 7, dans cette nouvelle vie, nous pouvons savoir qu'il y a une raison qui se cache derrière chaque épreuve que nous vivons. Dieu permet que votre foi soit mise à l'épreuve afin de vous permettre de tester sa solidité. Ainsi, vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus apparaîtra. Et j'ouvre une petite parenthèse d'une minute. Si on n'avait pas d'épreuve dans nos vies, on n'en aurait rien à cirer de Dieu. Si on n'avait pas de peine dans nos vies, on n'en aura rien à cirer de Dieu. Quand tout va bien, Dieu, dans nos échelles de valeur, il est loin pour certains. Il est très loin. Et Dieu qui nous aime dans sa grâce, quand il voit qu'un de ses enfants cherche à s'éloigner de lui et qu'il est là et qu'il commence à descendre les marches de l'escalier, permet une petite chose. Hey, tu m'oublies? Je dois toujours être le premier dans ta vie. Je dois toujours être le premier dans ta vie. Et là, je suis le cinquième, le sixième, parce que ça va trop bien dans ta vie. Il nous envoie un petit quelque chose. Oup! Tout de suite, on monte. Ça nous a fait mal, mais quand on arrive en haut, on a rétabli notre communion, notre relation avec Dieu. Là, on se tourne, on dit, Seigneur, je te remercie. Merci de m'avoir fait grandir. Parce que ce que tu me fais vivre, ça me permet de ressembler encore davantage à Jésus. Amen. Ah. Dieu ne nous a pas sortis du bourbier du péché pour nous détruire. Dieu nous a sortis du bourbier du péché pour nous laver par le sang de l'agneau et pour nous amener à ressembler à Jésus-Christ. Ça, c'est son œuvre. Tant et aussi longtemps qu'il ne viendra pas nous chercher. Un autre avantage, verset 8. Nous avons une joie indescriptible, une joie que les mots ne peuvent décrire, qui habite dans nos cœurs à cause de Jésus. Parce que je sais qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Plus de condamnation pour moi. Quand le diable vient me chuchoter dans l'oreille que le Seigneur ne m'aime pas, que je suis ainsi, je suis ça. Hey, t'as commis un péché l'autre jour. Je lui dis, écoute, va dire ça à Jésus. Va raconter tes bobards à Jésus. Je sais que j'ai péché, je sais que j'ai demandé pardon à Jésus. Et je sais que sur la base de sa parole, il peut me pardonner tout péché. Amen. Viens pas me voler ma joie. Va t'amuser ailleurs. Personne ne peut nous voler notre joie. Personne ne peut nous voler notre paix si on ne lui permet pas, frères et sœurs. Un autre avantage, nous obtenons le salut de nos âmes, verset 9. Nous avons reçu une nouvelle naissance, une nouvelle espérance, un héritage protégé par la main puissante de Dieu. Nous vivons des épreuves dans le but de consolider notre foi. Nous sommes joyeux parce que le but de notre foi, c'est le salut de nos âmes. Cette nouvelle vie paraît incroyable, n'est-ce pas? Je veux vous dire, qui n'en voudrait pas? Et cette nouvelle vie qui paraît si incroyable, elle est accessible à tous en autant qu'on renonce à notre ancienne vie. Peut-être que lorsque vous êtes levé ce matin, vous l'avez fait sans grande conviction, comme les femmes se rendant ce matin-là au tombeau. Vous avez peut-être, je ne sais pas, je ne vous connais pas tous, peut-être qu'il y avait des nuages sombres qui accompagnaient vos pas quand vous êtes venu ici ce matin, et vous n'aviez pas beaucoup d'espoir que ce jour sera un grand jour pour vous. Mais ce matin, Dieu vous offre une nouvelle vie remplie d'espérance. Pour vous qui êtes chrétien, peut-être que vous avez oublié à travers... Peut-être que vous aviez oublié ce que Jésus avait fait pour vous et qu'à travers ce message, vous avez réalisé que Dieu veut renouveler votre espérance vivante. Parce que ce passage vous a rappelé que la pierre a été roulée. Le tombeau est toujours vide. Regardez à l'intérieur, Jésus n'y est pas, il est vivant. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Nous pouvons avoir la vie éternelle, nous pouvons avoir la joie, nous pouvons avoir la paix qui surpasse tout ce que l'homme peut comprendre. Et une espérance vivante qui ne faiblira pas et qui ne disparaîtra jamais. Avez-vous besoin ce matin d'espérer en quelque chose de nouveau et de fiable? Avez-vous besoin de croire en quelque chose? Alors regardez ce passage qui nous parle de ce tombeau vide et prenez le chemin qui conduit à Jésus. Le tombeau vide signifie que vous pouvez recevoir le pardon de vos péchés, que Dieu vous offre son pardon à Jésus et qu'il veut que tous parviennent à la repentance. Voulez-vous saisir cette offre ce matin? Venez alors humblement au pied de celui qui peut vous pardonner. Venez devant le trône de la grâce de Dieu, là où se trouve le pardon ce matin. Le tombeau vide signifie qu'une nouvelle vie vous est offerte, une vie qui est conforme à celle que Dieu veut que vous viviez et qui vous remplit d'une espérance vivante. Et Dieu veut faire un miracle dans votre vie ce matin, passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Et si vous faites ce pas de foi ce matin, quand vous regarderez votre ancienne vie, c'est ça que la nouvelle naissance nous amène. Hein? Quand vous regarderez votre ancienne vie, vous direz, comment j'ai pu faire pour commettre de tels péchés? Quand on passe de la mort à la vie, quand on naît de nouveau spirituellement, quand on se repent de nos péchés, on voit le péché comme Dieu le voit. Et on trouve qu'il est mauvais, qu'il est sale, qu'il est destructif. Ça, c'est un des fruits de la nouvelle naissance. Dieu nous donne ses yeux. Dieu nous donne sa bouche pour qu'on puisse parler, pour qu'il puisse parler à travers nous. Dieu nous donne ses oreilles pour qu'on puisse entendre le cri des gens qui sont désespérés et qui ont tant besoin d'entendre parler de ce beau message de l'Évangile. Christ est ressuscité. Je vous invite à courber la tête, on va prier en terminant.